aujourd'hui, mardi 8 juillet 2025. Nous accueillons Magali Chapelin. Bonjour Magali.
Bonjour Agnès. On m'entend pas. Je me sens bien. Mmh.
Ok. Ouais. Donc nous sommes ravis de t'accueillir aujourd'hui. Tu as pour ton troisième, hier tu as présenté ton troisième long métrage. Donc tu as trois longs métrages, trois films présentés à Résistance. Enfin, tu as mérité ton café ciné. Donc, nous sommes ravis.
Ben moi aussi. Moi, je voyais ces cafés ciné de loin, souvent. Du coup, c'est marrant d'y être. C'est chouette.
Du coup, oui, tu as fait trois films. Ton premier film, c'était Poney Kids en 2012, 2004, je ne sais plus.
C'est écrit
c'était en 2012, il est passé en festival en 2014.
Oui, voilà,
tu l'as fait en 2012 et il est passé au festival en 2014. Ensuite, tu avais fait Accord perdu, tu étais aussi passé au festival.
Il y a deux ans.
En 2021. Non, c'était pas 2012. C'était sur la thématique du sport.
Oui, ouais. La thématique du sport, c'était deux ou trois ans.
Avec Eos en personnage principal, qui était aussi bénévole sur le festival. Et du coup, cette année, hier, tu as passé, comme l'a dit Agnès, 67 chemins à Pujade.
Voilà, c'est le dernier de la trilogie. J'espérais beaucoup qu'il passe à Résistance. J'avais déjà proposé à C'est bien qui libère l'année dernière sur l'autre thématique. Voilà, parce qu'on traite pas mal de solidarité et d'entraide, donc j'espérais un éternel qui passe, donc là j'étais vraiment ravie qu'il passe cette année.
Oui, on a sélectionné du coup sur la propriété sans vol, pour la thématique, sur l'aspect du film, mais aussi sur l'aspect du film. Ici, tu es aussi connue comme réalisatrice pour Caméra au point. Je sais pas, est-ce que tu veux nous faire un peu un peu ton parcours, un peu ce que tu fais, si tu veux nous en parler.
Oui, je peux revenir un petit peu sur le parcours. Moi, c'était assez simple. Je savais vraiment que je voulais faire du documentaire depuis ado. Questionnement des fois de jeunes étudiants sortis de lycée. Je savais que je voulais faire du documentaire. En plus, c'était vraiment précis. Dans la branche du cinéma, c'était vraiment ça. Ça simplifie un peu, je trouve, le parcours de vie quand on sait ce qu'on veut faire. Je suis toujours allée dans cette direction-là. Et sortie des salles, donc l'école de Toulouse, l'école publique de cinéma. J'ai commencé à écrire je suis sortie de cette école avec Poney Kids.
C'était ton film de fin d'études, c'est ça ?
Oui, c'est ça. Ouais, c'était mon film de fin d'études et j'ai fait du coup un film d'une heure, enfin il fait 52 minutes, donc formaté télé. J'avais quand même déjà très envie que ça soit vu et que ça soit diffusé. Donc je suis sortie avec ce film et ça m'a vraiment aidé, je pense, pour le parcours. Parce qu'il a... Alors, c'était un film, pour le coup, c'était un long métrage, mais c'était complètement autoproduit. Et au film de fin d'études, j'avais pas du tout le temps de lancer les démarches production, faire des dossiers, trouver des sous. C'était vraiment fait. Mais par contre, fait avec tout le support de l'école. Et c'est pas rien du tout, en fait.
Mais j'imagine tout peut-être le matériel, l'accompagnement pour faire le film.
Le matos, qui est quand même conséquent. Avec ça, il y a ce qu'il faut, quoi. Puis ils ont cette ouverture-là de s'il y a vraiment laisser cette possibilité aux étudiants de prendre le matériel sans justification, vraiment, enfin, de pourquoi faire. Voilà, enfin, c'est assez ouvert. Et donc, c'est non seulement caméra, mais aussi du bon son, des bons éclairages. Bon, là, c'est docu, donc il n'y a pas d'éclairage. Mais en tout cas, il y a vraiment ce qu'il faut. Et après, l'accompagnement aussi, le soutien des camarades, mine de rien, parce qu'il y a toutes les ressources à l'école. Il y a des mixeurs pro, enfin pro de formation, des personnes plus spécialisées en montage, donc j'ai aussi tout le soutien de camarades qui m'ont mixé le film, voilà, enfin, gratuitement, oui, en entraide, en tout cas, parce qu'on fait tout ça à l'école, c'était sur différents postes. Mais, et puis au montage, des regards extérieurs. Voilà, donc, et après j'avais aussi un camarade donc, qui était mon copain à l'époque, donc, qui prenait le son sur le tournage. Donc en fait j'avais tout ce qu'il fallait sans nécessité d'une production.
Sans budget, sans production, ouais. Mais.
Ouais, j'avais une petite bourse du Crous. Ouais, j'avais sollicité, c'est chouette pour ça. Franchement, le Crous, il y a vraiment des bonnes aides, je vous. Avis aux parents d'adolescents, c'est vraiment, enfin, je sais pas si ça existe toujours, mais ça, nous à l'ESSAF, ça finançait tous les films d'étudiants et ça finançait beaucoup de, voilà, ça faisait un tout petit budget, ouais, c'était 1000 euros, 2000 euros, je sais plus.
Oui, parce que du coup, t'as pu quand même voyager aussi pour ce film.
Oui, c'était en Irlande. Ouais. Bon, après, c'était fait avec les moyens du bord, hein. C'était fait, voilà, on faisait du couchsurfing. Sur place, on avait trouvé aussi par le couchsurfing des gens qui voulaient bien faire interprète, parce que c'était dans les banlieues de Dublin, donc l'anglais, c'était quand même super rude.
Oui, il devait y avoir un accent aussi un peu...
Bah, vraiment incompréhensible. C'est costaud, ouais. Donc ouais, on avait des Français là, qui vivaient là depuis longtemps, qui nous avaient aidés. Enfin, donc il y a beaucoup d'entraide. Enfin, c'est vraiment sur la même lignée que l'école. Tout le monde s'aide. Voilà, et ça s'est fait. Ah oui, même on n'avait pas loué de voiture, donc on allait avec les deux bimbikes dans la banlieue, c'était dans la banlieue plus blanc, donc on se débrouillait vraiment avec ce qu'on pouvait. Mais voilà, et donc c'est un film qui a tourné en festival, et donc a résisté. Surtout, voilà, au début de tout, Résistance m'a propulsée. Du coup, c'était homme-animal, c'était ça la thématique, ouais. Et puis il y en a eu d'autres, dont le FIFIC, Festival du film inspiré d'Augrois, un festival à Lyon, je ne sais même plus comment il s'appelle. Donc quand même des festivals un peu reconnus, et ça, du coup, ça, après, ça m'a donné aussi la crédibilité pour les dossiers de films que j'ai déposés à la région pour les autres films. Donc c'était vraiment un super... une bonne... ça valait le coup, quoi, parce que ça m'a pris du temps quand même, c'est un film d'une heure toute seule.
Oui, j'imagine. Ouais. Et après, tu t'es lancé dans le projet de Accord perdu d'abord, c'est ça?
Ouais, alors Accord perdu, donc passé il y a 2 ans au festival, et 67 chemins à la Pujade, donc c'est mes deux films donc produits, mes deux premiers films produits, donc avec les producteurs, d'ailleurs c'est deux structures différentes, des productions toulousaines, les films du Sud et Argan Productions, ça s'appelle. Et en fait, les deux ont été faits assez en simultané. Les deux se sont vraiment fondus, enfin, c'était tout en même temps d'un coup, parce que ça c'est les histoires de délai, parce qu'Accord perdu je l'avais déposé, redéposé plusieurs fois à la région. Au début j'avais rien eu, j'avais une aide à l'écriture finalement qui m'avait permis de financer une auteure, une autrice, pour m'aider à réécrire le dossier. Beaucoup de travail de dossier sur ce... Et en fait, le temps que ça soit financé, il y a l'autre qui est derrière, qui a été financé aussi. J'étais un peu en tournage sur les deux films en simultané, et du coup, en montage, j'ai eu la file d'attente, quoi. J'ai commencé par Accord perdu, qui avait été quand même tourné un peu en premier. Et 67e, j'étais dans les disques durs, en attente, depuis un an ou deux. Enfin, du coup, c'est entre 2017, le tournage, et sa sortie en 2020. Voilà, il y a eu cette attente-là. Pour avoir le temps de faire le montage et la post-production.
On a vu que pour 67 chemins de la Pujade, tu as été. C'était la fin du squat, comme on l'a vu hier.
Oui, c'est ça, j'aurais attendu un peu. Et donc, comme il y avait l'annonce de la fin du squat, la fin du lieu, si je voulais faire quelque chose sur ce lieu que j'avais repéré, que j'avais en tête, j'avais écrit un dossier. Et en fait, au dernier moment, j'apprends que en 30 jours, c'est fini. Donc, il y a eu tournage vraiment de dernière minute. On me dit, avec tout ce doute de est-ce que je vais avoir de quoi faire un film parce que c'est la fin du lieu, c'est vrai que c'était pas du tout la même ambiance que d'habitude, c'était un peu le bordel, le noyau dur était pas forcément là, c'était un peu avant l'été, les gens qui se dispersent, qui commencent à se projeter sur d'autres projets de vie, donc qui déménagent, qui postulent à des formations, enfin qui sont pas forcément là. Et donc je me suis dit, bon bah tant pis, on verra, j'y vais, j'y suis. C'est pas représentatif parce que c'est rien par rapport aux 5 ans de vie là-bas. Et effectivement, c'est rien. Mais moi, j'allais là-bas, il y avait toujours des scènes intéressantes à filmer. De toute façon, j'y allais sans préparer, en fait, j'allais un peu tous les jours. Il y avait tout le temps des trucs nouveaux parce que tellement de gens, ça grouille tellement de plein de cultures. Et puis voilà, des familles diversifiées, des profils diversifiés, il y avait toujours des scènes, donc en fait c'était intense, c'était concentré, mais pas besoin d'aller chercher très loin, ça c'est le rêve du réalisateur, il n'y avait rien à faire, il s'est posé sa caméra, et enfin voilà, il n'y avait pas besoin de mettre en place, de rester des jours pour avoir une scène qui nous semble intéressante. Je suis un peu happée les événements comme ça, tel qu'il venait. Bon, après, il fallait les structurer, créer une trame, un récit. C'est pas juste chronologique, par exemple. Il y a quand même. Même dans le montage, là, il y a un peu des flash-forward, il y a des allers-retours. Enfin, il y a une. Après, quand même, un montage, l'écriture du film, finalement, c'est fait vraiment un montage parce que j'ai pas le temps de réécrire, même si j'avais quand même imaginé déjà un film. Mais souvent. On repère, on réécrit, enfin voilà, après on commence à tourner, on réécrit, en fait à chaque fois, enfin, on est en réécriture constante pendant le tournage. Et là, ça a été vraiment réécrit au montage.
Oui, mais là j'imagine que par exemple, le début du film, c'est l'ouverture de squat après, et ouais. Du coup j'imagine que ça, oui, c'était, tu pouvais pas le savoir à l'avance et que tu... Tu as décidé de le mettre au début du film une fois que tu les avais accompagnés sur ce moment-là.
C'est le dernier tournage que je mets au début. L'ouverture du nouveau lieu, après 67, ils réouvrent d'autres squats pour loger des familles, pour se loger eux-mêmes aussi. Et en fait, je crois que j'avais même un procès. C'est aussi pour pallier un manque d'écriture. Dans le sens où j'avais pas de transition, j'avais pas fait parler les personnages du nouveau lieu à ouvrir, très peu. Donc il fallait expliquer cette ouverture, fallait l'expliquer, mais sans avoir recours à cette interview ou à des propos, une annonce. J'avais pas filmé les repérages du lieu, parce que moi, avant d'ouvrir, ils repèrent. Enfin, voilà, il manquait, j'avais un gros vide là dans la narration. Et donc, on cherche, en fait, dans ces cas-là, on cherche des solutions. On se dit, comment on explique ça sans mettre un panneau explicatif, sans mettre une voix off. Ça, c'est complètement injustifié dans ma tête de mettre ma voix off. Donc, il y a eu ce recours de, on n'explique pas tout. On verra au début, parce que c'est pas tout. À l'heure actuelle, je suis intéressée d'avoir des retours, parce que c'est pas toujours clair. C'est pas toujours, tout ne comprend pas. Je ne sais pas si c'est réussi. En tout cas, ça a été notre choix.
Si, je pense qu'on le comprend peut-être pas au début, mais on finit par le comprendre au long du film, quoi, et c'est bien fait. Voilà. Et puis, bravo pour ne pas utiliser de voix off. Moi, je ne supporte pas les voix off. Donc, bravo. Non, c'est... Voilà. Pour moi, il est très bien fait, ce film. Je crois qu'on a été d'ailleurs tous d'accord pour le sélectionner dès le départ.
Merci pour vos œils d'experts, parce qu'à force d'en voir, quand même, ça me fait plaisir.
Et tu as déjà un peu parlé dessus, sur l'écriture, tous ces allers-retours. Est-ce que sur les autres films, c'était pareil? Les sujets des autres films, oui.
Alors, si je reviens sur le premier, Poney Kids, c'est l'histoire d'enfants. J'ai toujours du mal à pitcher des films. Donc c'est l'histoire d'enfants dans la banlieue de Dublin, donc dans la banlieue populaire autour pas très loin du centre-ville, mais dans les banlieues. Il y a un phénomène de société là-bas, c'est inconnu, c'est parce qu'on ne va pas dans ces banlieues, donc on ne le voit pas. Mais en fait, il y a là-bas, de moins en moins, mais il y a des enfants qui élèvent des chevaux, des poneys ou des chevaux, dans les espaces publics, là où ils peuvent, parce qu'en général, ils n'ont pas de terrain. Et c'est quelque chose qui vient en fait de l'arrivée des travelers. Donc les nomades irlandais, donc c'est rien à voir avec les communautés roms qu'on a ici, c'est que c'était vraiment des Irlandais.
Les gitans.
Oui, mais enfin les gitans, en fait, ouais, enfin c'est vraiment une communauté à part entière. Donc c'était aussi, je sais pas, des gens qui étaient exclus de la société, qui se retrouvaient à voyager, ils étaient racines gitanes, enfin donc c'était tous ces gens-là qui se retrouvaient un peu gens du voyage. Et qui se, bah, comme ici, en fait, qui sont retrouvés un peu, enfin, très incités à se sédentariser et donc à être logés dans les logements sociaux, dans les banlieues, et qui ont gardé un peu la présence des chevaux, parce qu'ils vivaient avec les chevaux, c'est les chevaux qui tiraient les charrettes, et puis même ils étaient aussi professionnels du monde du cheval, puisque c'était beaucoup maréchal ferrant entre autres, et donc ils ont gardé au début les adultes. Où ils pouvaient pas dans leur bâtiment, et puis c'est un peu les enfants qui sont emparés de ce truc là, c'est une mode, et on voit des gamins s'accrocher des poneys ou des petits chevaux dans au milieu de la circulation, et ils font un peu des caïds, ils font un peu des, voilà, c'est des jeunes des banlieues qui déconnent un peu avec leur monture, alors certains avec des traits, voilà, plus ou moins bien traités évidemment, parce qu'il y en a qui groupent d'amour pour leurs animaux, font attention, d'autres moins. Et donc, il y a eu un peu, petit à petit, ils ont récupéré les chevaux des enfants. Il y a les services de santé animale, là, qui sont venus les rafter, enfin, les récupérer la nuit, donc avec plein de drames. Il y a un film de fiction très connu, le cheval... Merde, c'est pas le cheval de la mer, c'est un autre. Je sais plus, mais en tout cas, il y a une fiction...
Les
boxeurs. Hein ? Non.
Il y en a un comme ça aussi.
Non, c'est vraiment un film très féerique, très assez. Je retrouve le nom. Mais en tout cas, c'est un phénomène qui a été mis en avant dans cette fiction. On voit des enfants qui montent les chevaux dans des bâtiments. C'est quand même des immeubles aussi. C'est plutôt des petites maisons ouvrières, mais il y a aussi des grands immeubles, quelques-uns. Et on les voit, ils cachent les chevaux, ils montent dans l'ascenseur pour les cacher dans l'appartement pour pas qu'ils se fassent rafler. Mais en fait, c'est vrai, c'est des choses qui sont arrivées. Ces bâtiments-là, donc on voit dans ce film de fiction que j'avais vu avant d'arriver en Irlande, et fait que je suis allée les voir effectivement en vrai. Et effectivement, il y a ces chevaux qui traînent au milieu des tours. Donc il y a vraiment c'est assez anachronique, c'est assez étonnant. Donc voilà, c'est un truc qui me captivait à l'époque. Et il y avait eu un petit faux pas rêver, un petit reportage là-dessus. Et du coup, je m'étais dit, bon, c'est cool, faux pas rêver, mais en fait, ça dit pas grand-chose. Peut-être un vrai film plus long.
C'était quand, la date?
J'ai tourné en 2011-12, par là. Désolée, hein, je suis vraiment pour faire une rétrospective. De... je suis pas très douée parce que j'ai vraiment un problème avec les dates.
De quoi ça parle,
ouais. Alors, Accord perdu, on part sur complètement autre chose. C'est vrai que moi, j'ai plutôt une petite dominante sociale dans mes thématiques. Là, Accord perdu, je dirais plutôt sociologique que sociale. Enfin, donc c'est un film qui questionne les questions de genre qui peuvent traverser tout ce qui est le domaine de la pratique physique et sportive. Donc pas forcément que le sport, mais qui questionne le physique, nos attributs physiques. Et donc on suit une étudiante qui est en STAPS à Paul Sabatier à la fac de Toulouse, et qui est en train d'apprendre le métier de professeur d'éducation physique et en stage, qui se retrouve en situation de stage avec des élèves, et qui se pose plein de questions sur comment motiver les filles à faire du sport, pourquoi elles se sentent aptes, et quelle est la réalité aussi des différences physiques hommes-femmes, et donc est-ce que les barèmes différenciés en fait sont justifiés ou pas. Et voilà, et après, elle parle aussi d'un moment de l'intime, du personnel, sur elle, son rapport au corps. Et donc, voilà, on suit. Et en fait, c'est assez sociologique, c'est alimenté par des études sociologiques de chercheuses surtout, d'ailleurs, qui travaillent sur la question de la sociologie du sport. Donc, mais c'est amené de manière ludique, parce que c'est à travers le questionnement de cette jeune fille qui s'interroge, quoi. Voilà.
Ok.
Je précise aussi que parce que comme tu parlais d'Eos, qui donc était Zoé à l'époque, oui. C'est, elle a changé d'identité genrée, du coup on peut se perdre, donc c'est bien de l'expliquer. Quoi.
Ok, et peut-être est-ce que tu peux nous parler un peu de ton métier à caméra ou pas?
Et donc la suite, ouais, après 67, j'en ai plus jamais. J'ai été pris d'une grande fatigue en ce qui concerne la création de documentaires long métrage. En fait, c'est des dossiers. Et puis tous ces temps de de montage, de post-production, parce qu'après le montage, le mixage, le talonnage, le sous-titrage, ça n'en finit pas. Et c'est quand même lourd à porter. Je pense que j'ai eu un petit effet de saturation sur les deux films, là, où ça m'a vraiment, vraiment fatiguée.
Le fait d'en faire deux en même temps aussi, ça n'a pas...
Oui, aussi, sans pause. Oui, c'était un peu logique. Du coup, depuis, je n'ai pas refait de long métrage. Et donc, finalement, c'est vrai que ça commence à remonter un peu. Mais aussi parce que j'ai intégré l'association Caméra au Point à Foix, qui était déjà existante hein, depuis bien longtemps. Moi, je suis arrivée au milieu du parcours même de Télébuissonnière, qui était déjà aussi. Donc, Télébuissonnière, c'est un programme de l'association Caméra au Point qui consiste surtout dans ce site internet et ce projet de médias participatifs proches des gens. Là où l'association Caméra au Point est plus vaste et plus active. C'est vraiment voilà, ce média en ligne. Quoi. Et donc, c'est ce projet qui nous fait vivre principalement, qui prend plus de place dans l'association. Et donc, ce projet était en plein essor. Donc, il y a eu des congés maternité. Donc, j'ai pu rentrer dans l'association parce qu'il y avait déjà beaucoup de réalisatrices, un collectif. À l'heure actuelle, on est 8 réalisatrices. Quand je suis rentrée, elles étaient 6. Je trouvais que c'était déjà beaucoup. Mais congé maternité obligeant, tout ça, j'ai eu une petite place et finalement, je suis restée. Il y a aussi l'entrée d'une service civique, lui là, qui est resté longtemps avec nous, qui vient de partir. Donc maintenant on est 8. 8, 7, parce qu'il est reparti, bon, 4, 8 à nouveau. C'est Vanilla, la nouvelle service civique prend un peu sa place en ce moment. Donc c'est. Voilà, bon, c'est fluctuant. On était nombreuses et je ne pensais pas intégrer l'association. Mais en fait, parce que moi j'avais pas non plus cette approche. De film participatif, l'approche plus sociale. Qu'on a à Caméra au Point, le film étant une manière de donner la parole à des gens qui n'ont pas, d'aller écouter des personnes. Il y a vraiment un fond très social et et beaucoup de temps d'écoute et tout.
Puisque du coup, c'est sous quelle forme, si vous faites des ateliers, des accompagnements au film, tu peux nous décrire un peu comment vous travaillez, comment vous accompagnez?
Eh bien, on a plusieurs formes différentes. C'est un peu, ça grouille, hein, on fait plein de trucs. On a des films plus de création, des petits films documentaires. Et à côté de ça, on a aussi beaucoup de projets, donc toujours sous forme courte, où on essaie de faire des films avec les gens. Donc c'est soit sur suggestion d'une idée de leur part, soit parce qu'on les interviewe, mais on essaye d'être vraiment à l'écoute de quel film ils ont envie de faire, ou alors parce qu'on donne les outils de tournage aux personnes, à des personnes qui vont filmer, prendre le son. Souvent, on fait quand même le montage nous-mêmes. Parfois, c'est parce que c'est plus compliqué, ça, de faire ça rapidement et de donner un ordinateur à quelqu'un d'expliquer le montage. Voilà. Mais il y a beaucoup de films qui sont faits comme ça en collaboration avec les gens. Et puis, c'est de sentir. Souvent, en fait, on arrive sur un territoire. La majorité de nos projets, on a une subvention pour un territoire donné. Et on essaie de sentir quel est l'enjeu du territoire ou qu'est-ce qui compte pour les gens à cet endroit-là. Et de sentir, du coup, voilà, quel film on va. Mais on ne sait pas quel film on va faire. Donc, c'est pas. Alors évidemment, on ne fait pas un film sur un sujet qui nous désintéresse profondément, on ne se force pas non plus, mais on ne fait pas forcément, on va pas forcément chercher ce qui nous exciterait le plus, ou ce qui serait le plus joli à filmer, ou l'enjeu du territoire.
Alors je crois qu'au sein de Caméra au Point, tu as aussi un rôle de formation. Tu aides des personnes qui ont envie de faire leur propre film. Est-ce que tu peux nous en parler?
Oui, carrément. Mais ça commence à prendre la place. Enfin, ça fait 4 ans que ça existe, que je propose du coup une formation à la création documentaire. à toute personne désireuse de, bah, de, voilà, de faire ça, de s'emparer de ces outils-là pour exprimer quelque chose. Donc c'est ouvert à tout le monde, adulte par contre, pas enfant, mais tout âge, 18 à 99, voire plus. Et donc l'idée c'est de petit à petit d'amener des apports théoriques au début, puis techniques, pour qu'à chaque étape du film, donc au début on apprend à écrire, à construire le récit, puis petit à petit, voilà, commencer à prendre en main une caméra, comprendre comment se fait une interview, prendre en main aussi avoir un questionnement sur le son, le point d'écoute, le meilleur point d'écoute, avoir le meilleur son possible, tout ça. Donc il y a des interventions régulières, c'est un week-end par mois, et petit à petit, du coup, on commence à filmer et à faire un film. Donc ça se fait tout seul, en fait. Il faudrait demander aux intéressés, aux personnes. Mais souvent, il y a quand même ce truc où il y a la peur au début d'un truc énorme, mais en fait, qui avance tranquillement avec un gros coup de bourre à la fin pour faire le montage.
Tu as aussi fait de l'accompagnement d'ateliers sur le festival, certaines années.
Oui, c'est vrai. Ouais, oui. Bah, on est pareil, toutes. Je pense qu'on a tout un moment été à travailler sur le festival sous forme d'ateliers. Chaque année, il y a pas mal d'ateliers. Il y a toujours un atelier enfant. On voit toujours ce groupe d'enfants. Alors, très souvent, c'est Marie qui l'a porté longtemps, qui est notre spécialiste atelier enfant. Mais il y a eu il y a des kinos chaque année, donc ça c'était beaucoup Chloé. Moi j'avais fait un atelier avec les enfants de la PJJ, protection de la jeunesse, donc avec un groupe de jeunes. Bon, j'avais fait aussi un atelier enfant, donc oui, de toute façon on est quand même en étroite collaboration avec le festival. Et ces ateliers, effectivement, c'est dans toute cette ligne-là de la transmission, c'est aussi quelque chose qui... En tout cas, moi, ça a été une bonne manière pour moi de me renouveler aussi, parce que quand je vous parlais de cette fatigue-là, de long métrage, elle commence à me gagner, même sur du court métrage documentaire et même sur des films participatifs petit à petit, parce que c'est vrai que voilà, moi, je suis plutôt du genre, j'ai besoin de faire plein de trucs dans ma vie, et là, ça commence à faire... 20 ans que je suis là-dedans. Donc, moi, c'est, voilà, ça a été une, en tout cas, pour l'instant, c'est une manière aussi pour moi de continuer à ce métier, mais en m'ouvrant sur un peu plus la transmission et un peu moins faire mes films. Voilà, il y a aussi un truc d'ego où oui. Je pense que j'ai assez nourri mon ego sur ma capacité à en faire, et maintenant, ça fait plaisir de permettre à d'autres personnes d'en faire.
Est-ce que tu te dis que tu referas quand même un film à toi plus tard, tu fermes la porte ou... Tu l'as ouvert?
Non, parce qu'en fait, à chaque fois que je dis que j'arrête, chaque année, je dis bon, c'est ma dernière année d'intermittence, je vais faire autre chose. Ben, en fait, ça me rattrape quand même. Et je pense que c'est plus un besoin de pause que vraiment une fin, ça c'est sûr. Parce que vraiment, je sens quand même que c'est un élément que je suis bien. Enfin, puis voilà, et j'ai vraiment un énorme plaisir à chaque fois. À continuer de participer à des films en essayant toujours de trouver un peu d'autres rôles. Le son aussi, ça m'a fait vraiment du bien aussi de faire plus de son, moins d'images. J'ai fait beaucoup, beaucoup d'images. J'étais formée en images, donc c'était vraiment... Sur mes films, j'ai toujours cadré. C'était moi qui... Je voulais pas déléguer le cadre. Et des fois, je me dis, bon, je pourrais peut-être refaire un film, mais par contre, voilà, peut-être faut arrêter de tout faire aussi. Et faire l'image, parfois le son, parce que pendant le son, il n'y a pas toujours le budget de l'avoir tout le temps. Plus le monde, enfin voilà, être là pendant tout le montage, même si on a une monteuse, bah voilà, moi j'ai le fait de ne pas arriver à lâcher, je pense qu'on se fatigue aussi, et peut-être ça a été un peu mon piège. Là je me dis, bon, peut-être dans de bonnes conditions, un petit film Arte avec une vraie équipe, ou c'est juste réalisatrice, où j'accepte de me contraindre aux directives de la production, où je me bats pas trop non plus, mais où je peux quand même. Sur quelque chose de plus confortable comme ça, je me dis, bon, pourquoi pas.
Ouais.
Après, je pensais aussi accompagner des. Bah, comme je forme plein de nouveaux et nouvelles réalisateurs, réalisatrices, ici en Ariège, au bout de 4 mois, là, on a plein de nouvelles personnes qui font des films. Je pense accompagner à la réalisation professionnelle cette fois, donc aider dans la rédaction du dossier, dans le tournage. Là, je pense à une réalisatrice en Ariège, Viola. Professionnaliser et peut-être voilà, dans de l'accompagnement professionnel en co-autrice. Ou... Bon, voilà, je cherche des nouveaux postes. Quoi.
Ok.
Parler de la diffusion.
Au niveau de la diffusion de tes films, du coup, tu avais dit que, que le premier, du coup, il avait beaucoup tourné en festival. Est-ce qu'après, ça peut être diffusé ailleurs? Comment ça s'est passé pour les autres?
Eh bien, c'est assez bizarre, la diffusion. Moi, j'ai toujours pas compris. Parce que bah, Poney Kids, qui a été fait quand même avec un peu moins de budget, qui est quand même un peu moins pro, enfin, surtout au niveau de l'image, c'était même pas une image HD à l'époque. Il a très bien tourné en festival hein, plutôt, mais quand même un peu même en médiathèque et tout, milieu institutionnel. Non là je reviens sur Poney Kids. Corps perdu, bah il a vraiment tout dépoté parce que ça parlait du genre. À un moment où les questions de genre étaient hyper présentes, enfin, elles sont toujours, mais du coup il a sauté sur la vague. Je pense qu'il est arrivé pile au bon moment. Par rapport à MeToo, c'était à peu près pendant, quoi, il me semble. Donc, en fait, j'ai rien eu à faire. Il était diffusé quelque part, il était repris par quelqu'un qui le voyait, qui le proposait ailleurs. Il y a eu les festivals féministes, il y en a eu un paquet, il y en avait moins avant, et d'un coup, il y en a eu plein, ils s'en sont emparés. Il y a eu des médiathèques, les dispositifs scolaires aussi de cinéma à l'école. Il est bien passé auprès des collégiens lycéens. Même en festival, il a un peu tourné. Donc il a eu vraiment une belle vie. Il est là au petit Vic de Sceaux cette année, enfin, ça compte plus de temps en temps pour les gens. Et par contre, 67 chemin la plus jade, bah, rien du tout. Et vraiment rien. Là, c'était sa 5e diffusion. Et vu qu'il commence à avoir quelques années, bon, il y a quand même moins de chances qu'il surfe sur une vague puisqu'il y a beaucoup de vagues. Et puis ça se fait quand même souvent au début, quoi. Si ça prend pas au début, après, ça peut arriver. On m'a dit que dans le cadre institutionnel, ce serait compliqué, parce que c'était quand même, on parlait de... Voilà, des institutions financées par des mairies vont avoir du mal à montrer des gens qui... Donc...
Oui, rien que le thème et ce que tu apportes aux gens, du coup... C'est plus difficile.
C'est ce que me disait Frédéric, qui fait la diffusion, qui, a tous les, voilà, qui distribue les deux films, qui a distribué Corps perdu et 67 chemin la plus jade, et qui a bien sûr beaucoup. Enfin voilà, il me dit, il a Corps perdu, il a distribué, mais pas l'autre. Quoi. Et pour lui, c'est ça. Enfin, parce que lui, il est vraiment que dans les milieux institutionnels.
Ouais.
Donc, de ce côté-là, et c'est vrai que pour la création locale, les documentaires locaux, c'est les instituts, le milieu institutionnel, le milieu scolaire, tout ça, donc c'est vraiment un très haut diffusion énorme. Parce que les chaînes publiques, tout ça, c'est un peu inaccessible. Il faut savoir que les producteurs à Toulouse n'ont pas forcément les mêmes réseaux que les productions parisiennes. Et donc tout ça, si ce n'est pas fait en amont, d'ailleurs, les diffusions cinéma, salles de cinéma et télé, si ce n'est pas fait avant la sortie du film, c'est une fois que c'est drapé, quoi. Donc après, il nous reste plutôt d'autres secteurs de diffusion, tels que les institutions.
Ok. Merci. Est-ce que vous avez des questions, peut-être?
Magali, ce film que tu as tourné à partir des roches, est-ce qu'il t'a manqué des scènes?
Sur 67 chemins la plus jade?
Quel film?
Oui, c'est ça, je pense, 67 chemins la plus jade. Est-ce qu'il m'a manqué de scènes? Non. Non, franchement, non. Enfin, déjà. Mais il y avait ce qu'il fallait, je crois. J'étais dans un voilà quelque chose qui paraît équilibré. Je devais avoir 20 heures d'image, mais c'est à peu près normal. Enfin voilà, c'est ce qui se fait. Là, pas encore perdu, j'avais plutôt 120 heures, quoi. Donc voilà, c'était complètement démesuré et abusé. Ce montage d'accord perdu qui a été très long, très compliqué. Mais non, 67 chemins la plus jade, c'était assez simple. C'était assez simple comme film parce qu'en fait, comme on est dans des tranches de vie, que le propos, ben, c'est plutôt montrer de la bienveillance, de la solidarité, mais voilà, c'est par le sensible et par des scènes de vie. Il n'y avait pas trop de problèmes de trouver vraiment une chronologie exacte qui construise un récit précis. J'arrivais assez facilement à inverser les séquences, à avoir quelque chose qui restait homogène. Donc c'était pas trop compliqué, ouais, comme montage. Ça va. Enfin, bon, bah après, je sortais d'un film vraiment très compliqué aussi. Comme Raccord perdu, c'est de la sociologie, on développe. Et puis c'est ça, en fait, souvent on nous demande, bah, comment on commence un film. Est-ce que c'est sur l'idée d'une personne, d'un lieu, d'une thématique? Et bien vraiment, je peux vous dire que si on se base sur une personne ou un lieu, donc c'est 467 Thomas Bulat, c'est beaucoup, beaucoup plus simple. Et je vois auprès de mes élèves de la formation, là, que je vois 10 films sortir chaque année, enfin, 10, entre 5 et 10, je vois vraiment que les films qui parlent d'une idée, dans des films un peu à thèse, on se dit, ok, je vais développer un propos, tel propos, et je vais trouver des personnages et des lieux qui correspondent à ce propos, c'est beaucoup plus compliqué. À penser, à structurer, parce qu'on ne trouve jamais les personnes qui portent réellement l'idée qu'on veut. Donc en fait, notre propos à nous, il faut arriver à accepter de le changer. Alors que de partir d'une personne, d'un lieu, on suit cette personne et après, ça se construit tout seul. Donc voilà, c'est une petite réflexion sur l'écriture documentaire.
Ok, merci. Est-ce qu'il y a d'autres questions ?
T'as des projets ?
Eh ben, mon projet, pour l'instant, c'est de faire une pause.
Bon,
c'est pas super ce que je disais, c'est que vraiment, j'ai des idées de long métrage. Là, j'aimerais bien partir sur un film voilà, où je puisse vraiment aller expérimenter l'image, du son. Parce qu'à la télé bissonnière, on expérimente un peu, mais on est dans des délais tellement courts que des fois c'est frustrant. Et puis de ne pas vraiment aller peaufiner, on est toujours obligé de monter on a souvent entre 3 et 5 jours de montage, donc, ouais, entre voilà, 3 jours de tournage. Donc, et donc là, j'ai un peu à nouveau envie de repartir sur quelque chose de.
Prendre du temps, voilà.
Ouais, d'avoir le temps, oui, avoir un bel objet fini, ouais. Et puis pour développer un propos aussi, aller plus loin dans un propos. Et ça, j'en ai plein, des idées, des sujets qui me trottent en tête. Beaucoup autour du genre, quand même, c'est quand même une thématique, j'aimerais bien revenir, en fait, j'ai l'impression que j'ai de quoi faire. Voilà, du genre, de la parentalité. Ouais, c'est vrai, je n'en dis pas plus, mais voilà.
Ok, merci.
Merci, merci beaucoup, Magali.
Oui.
Ouais. Bon. Merci, et du coup, on s'arrête là.
Merci à vous deux. Merci d'avoir relancé.
À toi, voilà, merci.